Au micro, Idrissa Seloudia, bonjour. Au Mali, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mokhtar Ouane, âgé de 64 ans, a été désigné dimanche pour diriger le gouvernement de transition. Kassim Traoré nous en dira plus dans un instant. Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Tchambash, a souhaité une présidentielle pacifique et inclusive en Côte d'Ivoire, où le scrutin est prévu le 31 octobre. Nous reviendrons sur la déclaration de Mohamed Ibn Tchambash avec Abdulrahman Dia. En Algérie, la justice a condamné dimanche Brahim Lalami, une figure du mouvement de protestation populaire Irak, à 3 ans de prison ferme, a appris l'AFP auprès du Comité national pour la libération des détenus. Par ailleurs, Khaled Tazara, un ex-député et militant anti-régime, a écopé 1 an ferme dans un autre procès, selon la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. La pandémie de COVID-19 qui a démarré fin 2019 en Chine avant de se répandre dans le monde entier a fait plus d'un million de morts selon un décompte de l'AFP. 1 million est un nombre terrible, a affirmé le directeur des situations d'urgence de l'OMS Michael Ryan, estimant un doublement très probable. Les perspectives sont sombres en effet, après une courbe qui repart à la hausse en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, renforçant la crainte d'une seconde vague, et ce alors que les restrictions sanitaires adoptées par les gouvernements, comme les confinements, les fermetures des bars et restaurants ou l'interdiction des rassemblements se heurtent dans de nombreux pays au mécontentement croissant de la population. Plus de 32,9 millions de cas ont été recensés, dont au moins 22,5 millions sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, le Brésil, l'Inde et le Mexique comptabilisent à eux seuls plus de la moitié des décès recensés dans le monde, et l'Inde annonce avoir franchi la barre des 6 millions de cas. Les décès en Afrique avec l'Océanie, l'un des deux continents les plus épargnés, sont en baisse depuis le mois d'août, moins de 200 par jour à la mi-septembre, après un pic à quelques 400 au début du précédent mois. Le président américain Donald Trump a qualifié dimanche de fake news les révélations du New York Times selon lesquelles il n'aurait payé que $750 d'impôts fédéraux en 2016, l'année de son élection à la Maison-Blanche, puis autant en 2017 et n'a payé aucun impôt durant 10 des 15 années précédentes. Ce sont des informations bidons, totalement inventées, a affirmé M. Trump lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche. J'ai payé beaucoup et j'ai payé beaucoup d'impôts sur le revenu au niveau de l'État aussi. L'État de New York taxe beaucoup, a-t-il ajouté, assurant que les informations sur ces impôts seront toutes révélées, sans préciser quand. M. Trump a refusé à maintes reprises de publier ses déclarations de revenus, une rupture avec la tradition pour les candidats à la présidence, en affirmant que celle-ci faisait l'objet d'un audit. Au moins 15 soldats séparatistes supplémentaires de la région de Nagorno-Karabakh ont été tués dans les combats avec l'Azerbaïdjan, a indiqué lundi le ministère de la Défense de cette province sécessionniste soutenue par l'Arménie. Cela porte à 32 le nombre de ces militaires tués depuis dimanche matin et le début des combats. 5 civils azerbaïdjanais et 2 civils arméniens du Karabakh ont également succombé, portant le bilan officiel total à 39 morts. L'Azerbaïdjan n'a pas annoncé cette perte militaire. Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, Washington DC, en votre compagnie Idrissa Seloudia, restez à l'écoute pour la suite de nos informations. la suite de nos informations, Omali Mokhtar Wane, 64 ans, ambassadeur de 1995 à 2002 aux Nations Unies, ministre des Affaires étrangères de 2004 à 2009, puis conseiller diplomatique auprès de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en janvier 2014. Il est depuis dimanche premier ministre de la transition, nommé à ce poste par le président Bandao. La liste de son gouvernement est attendue ce mardi. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Attendu depuis l'investiture du président Bandao, le nouveau premier ministre de la transition au Mali est désormais connu. Il s'agit de l'ancien ministre des Affaires étrangères Mokhtar Wane. Né le 11 octobre 1955 à Bindi dans la région de Mopti, Mokhtar Wane est âgé de 64 ans. Il est un homme politique malien. De 1995 à 2002, il a été l'ambassadeur du Mali aux Nations Unies. C'est après qu'il a été nommé ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale le 2004 dans le gouvernement de Ousmane Issoufou Maïga. Il a été reconduit à ce poste par le président Amadou Toumani Touré dans le gouvernement de Modibo Sidibé du 3 octobre 2007 au 9 avril 2009. Il parle couramment anglais, le bamana, le peul et le français. Mokhtar Wane est marié, père de 3 enfants. La nomination de ces civils à ce poste de premier ministre devrait conduire à la levée des sanctions de la CEDEAO qui pèsent sur le Mali depuis le coup d'état qui a conduit au départ d'Ibrahim Boubacar Keïta. D'ici le mardi prochain, Mokhtar Wane aura la lourde charge de former un gouvernement censé conduire les 18 mois de transition. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Tchambas, appelle à une présidentielle pacifique et inclusive en Côte d'Ivoire. Il a terminé dimanche une mission d'une semaine dans ce pays, Abdourahmane Dia.
Le représentant spécial a réitéré son appel à tous les acteurs politiques pour qu'ils poursuivent leur engagement pour l'organisation d'une élection pacifique et inclusive dans le respect des droits de l'homme, selon le texte du communiqué diffusé à la fin de sa mission. À cet égard, il note la libération provisoire de détenus le 23 septembre, un geste bienvenu, et espère que d'autres mesures d'apaisement seront prises alors que le processus électoral se poursuit, selon le texte évoquant la libération d'une dizaine de partisans de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro. Le Conseil constitutionnel a rejeté le 14 septembre la candidature de M. Soro, de l'ancien président Laurent Gbagbo et de 38 autres candidats, mais a validé celle du président Alassane Ouattara en troisième mandat. Pendant son séjour, M. Ibn Tchambas a notamment rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara, des membres du Conseil constitutionnel et de la Commission électorale indépendante, les candidats à la présidentielle et des organisations de la société civile. En août, une quinzaine de personnes ont été tuées dans des violences après l'annonce de la candidature de Alassane Ouattara, qualifiée de forfaiture par l'opposition.
Ici aux États-Unis, la bataille pour la confirmation de la juge conservatrice Amy Coney Barrett à la Cour suprême est lancée. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, souhaite que le Sénat ne se prononce qu'après la présidentielle du 3 novembre. Mais pour le président Trump, la confirmation doit intervenir le plus tôt possible. Le point avec Michel Joseph.
Lors d'une interview sur Fox News dimanche, Donald Trump s'est dit convaincu que le Sénat américain, à majorité républicain, voterait avant l'élection pour confirmer la nomination de sa candidate, la juge Amy Coney Barrett, à la Cour. « Je pense que ça serait bien de le faire et de passer à autre chose », a ajouté le président. « Les élections ont des conséquences et nous avons gagné l'élection de 2016. Nous avons le Sénat, nous avons la présidence », a indiqué Donald Trump. Son adversaire démocrate Joe Biden a de nouveau réclamé dimanche que le Sénat ne se prononce pas sur la juge désignée samedi par le président, Amy Coney Barrett, avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Jamais dans l'histoire de notre nation, un juge à la Cour suprême a été désigné et installé alors qu'une élection présidentielle est déjà en cours, a-t-il dit lors d'une brève conférence de presse à Wilmington, sa ville de l'État du Delaware. Sauf surprise, les sénateurs républicains qui disposent de 53 voix sur 100 à la Chambre haute du Congrès devraient confirmer le choix à la Cour suprême.
Minute Éco, Nanit Talani.
Le Gabon a produit 41 millions de barils de pétrole au premier semestre 2020, soit une hausse de plus de 3% par rapport à 2019. C'est le fruit d'une amélioration des champs matures et des performances du champ Simba. Les prix du brut ont par contre baissé jusqu'à 37,28 dollars le baril. Les exportations ont aussi reculé à 5,15 millions de tonnes métriques en raison de la baisse de la demande mondiale liée à la crise de COVID-19, explique la Direction générale de l'économie. Le Burkina Faso compte construire 6 centrales solaires photovoltaïques d'une puissance cumulée de 176 MW après le lancement de nouvelles centrales solaires de 20 et 10 MW dans les villes de Kourougou et Kaya et l'inauguration de la première usine ouest-africaine de production et d'assemblage de panneaux solaires. Le Burkina vise à couvrir d'ici à 2030 30% de ses besoins en électricité avec le solaire et réduire ses importations d'électricité de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Pour terminer, les États-Unis ont annoncé une aide de 152 millions de dollars vers la Mauritanie, le Niger, le Mali et le Burkina Faso pour faire face au déplacement massif de leur population et à l'insécurité alimentaire due au conflit. Cet appui comprend de la nourriture, des abris d'urgence, l'accès aux soins de santé primaires, des fournitures médicales, des produits pharmaceutiques, de l'eau potable et des moyens de subsistance pour les personnes déplacées, les réfugiés et les communautés qui les accueillent.
Les sports à présent avec Élisée Compatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, l'Algérie disputera un match amical face au Nigeria le 9 octobre prochain en Autriche.
Oui, la Fédération algérienne de football l'a annoncé à travers un communiqué. Les FENEC disputeraient deux matchs amicaux, dont un contre le Nigeria, troisième à la CAN 2019. Le match aura lieu le 9 octobre prochain en Autriche. Le second adversaire des champions d'Afrique n'a pas encore été dévoilé. Selon des sources concordantes, il pourrait s'agir du Mexique.
En Tunisie, l'Union sportive de Monastir reporte la Coupe nationale.
L'équipe de l'Assad Jada a battu l'Espérance de Tunis sur la marque de 2-0. C'est le premier titre de l'histoire du club de Monastir qui avait déjà atteint la finale en 2009.
En Égypte, le Zamalek du Caire a un nouvel entraîneur.
Tout à fait, et il s'agit de Jem Pacheco. Il a signé un contrat d'un an, soit jusqu'à la fin de la saison 2020-2021. Le Portugais est donc le successeur du Français Patrice Cateron, qui a quitté le club Kairot il y a quelques jours pour s'engager avec les Saoudiens d'Al Taoun. A noter que l'autre géant du Caire, Al Ahly, s'est aussi séparé de son entraîneur. René Weller a décidé de ne pas prolonger son contrat qui expire au début du mois d'octobre. Le Suisse sera remplacé provisoirement par Mohamed Youssef. Un coup dur pour le national à moins d'un mois de sa demi-finale de Ligue des Champions contre le Wydad de Casablanca.
En Allemagne, après avoir remporté la Super Coupe d'Europe, le Bayern s'écroule en championnat.
Le club bavarois s'est lourdement incliné sur le terrain d'Offenheim, score 4-1. Au classement, Offenheim prend la tête alors que le Bayern est 6e. En Angleterre, Leicester a réalisé l'exploit de s'imposer à Manchester City 5-2. Les Foxes partagent la première place avec Everton, vainqueur 2-1 de Crystal Palace. En Italie, Naples a infligé une correction 6-0 à Genoa à l'occasion de la deuxième journée de la Serie A. Avec 6 points, les joueurs de Gennaro Gattuso domine les détails à égalité avec le Milan AC qui a également signé un deuxième succès de rang à Crotone 2-0. Et puis en Espagne, pour son premier match de la saison, le FC Barcelone a déroulé contre Villarreal au Camp Nou, score 4-0.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougo. Le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique. We'll be right back.
d'aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie, Idrissa Seloudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. À Lubumbashi, en République démocratique du Congo, les Maïmaï Bakata Katanga, du mouvement indépendantiste révolutionnaire africain du seigneur de guerre Kiumbu, ont fait une incursion dans la nuit de vendredi à samedi en plein centre-ville. Le bilan provisoire serait d'une vingtaine de morts et plusieurs blessés. Malgré le retour au calme, les armes ont été entendues autour de la prison de Kasapa jusqu'à dimanche dans la matinée. De Lubumbashi, notre correspondant Narval Mabila.
Les Bakata Katanga du mouvement indépendantiste révolutionnaire africain Mira ont fait leur incursion autour de Lubumbashi jusqu'à atteindre le centre-ville vers 23h par local dans la nuit du vendredi. Ils ont hissé le drapeau du Katanga indépendant devant la grande place de la poste Moïse Tshombe. Ils étaient accompagnés des hommes, des femmes, des enfants, certains armés de Kalachnikov et d'autres des machettes. Les retentissements des armes ont été entendus toute la nuit jusque dans la matinée de samedi, et cela avant d'être délogés par les militaires effarlessés avec des échanges, des tirs très nourris. Témoin qui loge à côté de la grande place Moïse Tshombe nous relate le déroulement des événements à notre micro.
Justement, vers le minuit, on a été surpris de voir le Katakata. On n'avait pas le nombre exact des éléments, mais c'était une centaine. Si ce n'était pas 180, c'est 200. Armés de machettes et armés des armes. J'entends des chansons pour dire on est venu récupérer la terre de nos ancêtres. Ça a été légué par nos ancêtres. Vers 1h34 minutes, le Katakata a commencé à tirer de balles. C'est vers 2h du matin, il y a deux policiers venant d'où on ne sait pas qui s'est dirigé vers la poste. L'un d'eux a eu deux coups de balle et l'autre a eu deux coups de machette. De minuit à 5h du matin, de renseignements se pointent sur le lieu et la femme décède, qui est le voyant militaire communément appelé le commando, la JR, pour riposter au coup de feu que les autres tirent sur les policiers.
Entre-temps, deux groupes de Bakata Katanga ont tenté simultanément de prendre le contrôle du gouvernorat de province sans succès et de la radio-télévision nationale congolaise du Katanga où ils ont assiégé pendant une dizaine de minutes. Les FARDC sont intervenus pour repousser jusqu'en dehors du centre-ville où la traque s'en est poursuivie. Le ministre provincial de l'Intérieur, Philbert Koundamilondou, donne les bilans des événements.
À l'heure actuelle, le bilan provisoire se présente comme suit. Du côté des assaillants, 16 neutralisés, plusieurs blessés, 13 capturés, 7 armes récupérées, plusieurs flèches et machettes, des effigies de généraux Kiumbu-Katanga et un drapeau de Mira. Côté loyaliste, 3 morts, dont 2 policiers décapités et un élément FARDC tué par balle. 7 blessés, 2 jeeps touchés par balle, une autre jeep saccagée et 3 armes ont été emportées. Il n'y a pas eu de dégâts collatéraux signalés auprès de la population civile.
Face à cette incursion de Bakata Katanga, l'élu de Lubumbashi pour les comptes de l'UDPS, le député provincial Michel Kabwe dénonce la négligence des services de sécurité. Lubumbashi serait-il tombé entre les mains de Bakata Katanga ou l'enclenchement d'une guerre tribale à venir? Le pire est à craindre. Lubumbashi, Narval Mabila pour VOA Afrique.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Le premier ministre togolais, Komi Sehlom Klassou, a remis vendredi sa démission ainsi que celle de son gouvernement, une démission qui intervient 7 mois après la présidentielle du 22 février, remportée par Faure Gnassingbé. Dans la perspective de la formation du gouvernement, une vingtaine d'organisations de promotion et de défense des droits des femmes et des jeunes se sont constituées en collectif pour demander une meilleure représentativité de ces deux couches sociales dans le prochain exécutif. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
35% pour les femmes et 15% pour les jeunes dans le prochain gouvernement, c'est ce que demandent des organisations togolaises de défense des droits des femmes et des jeunes. Depuis quelques mois, ces organisations de la société civile mènent un plaidoyer pour une meilleure prise en compte de l'égalité hommes et femmes dans les instances de prise de décision. Dado Amedjenou Novieku de la coordination de la plateforme pour ce plaidoyer.
Les jeunes et les femmes représentent la majorité de la population, que ce soit de l'opposition, du pouvoir en place, dans la société civile ou au niveau des entreprises, il y a des jeunes et des femmes de qualité. Nous ne disons pas ici qu'il faut mettre les femmes et les jeunes parce qu'il faut les mettre, non. Mais ils sont des acteurs de développement. Et ces acteurs de développement-là doivent être mis dans les instances décisionnelles. Et l'une des instances décisionnelles, c'est le gouvernement.
Dans un pays où les jeunes représentent une proportion assez considérable de la population, il est plus que primordial que leur représentativité soit assurée au niveau des postes de prise de décision, soutient Emmanuel Assobavi, premier vice-président de l'Union chrétienne des jeunes gens, YMCA Togo.
Donner une place aux jeunes dans les instances de prise de décision permet d'éviter un éternel recommencement. Aujourd'hui, nous parlons de l'agenda 2063 au niveau des pays africains. En 2063, les leaders aujourd'hui n'y seront plus forcément. Mais si les gens réfléchissent sur demain, mais ceux qui sont susceptibles d'être là demain pour prendre les commandes ne sont pas impliqués, ça veut dire que demain, quand ils viendront aux commandes, ils vont remettre en cause tout ce que les aînés ont fait. Il faut les impliquer pour que eux aussi puissent avoir leur mot à dire pour consolider les acquis aujourd'hui et demain. C'est d'une importance capitale.
Avant même la démission du gouvernement chapeauté par Kony Selom Klassou, la plateforme est allée à la rencontre de certaines institutions. Dado Amedjenou Novieku, coordinatrice de WANEP Togo.
Nous avons transmis un courrier au président de la République pour faire cette requête-là, d'avoir dans le prochain gouvernement 35% des femmes et 15% des jeunes. Et puis, nous avons rencontré certains partis politiques, la présidente de l'Assemblée nationale, le ministère de la promotion de la femme et puis le ministère chargé de la jeunesse. Notre démarche, c'est de faire comprendre à un certain nombre d'acteurs cette vision-là qu'il est nécessaire pour le Togo d'avoir dans le prochain gouvernement et dans les gouvernements à venir une meilleure représentativité des femmes et des jeunes.
Ce plaidoyer ne va pas se limiter au prochain gouvernement. Ces OSC veulent aller au-delà. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique, 24h sur 24, à Lomé, sur 102.3 FM.
Au Nigeria, la tension monte entre les deux centrales syndicales du pays et le gouvernement, à l'origine l'augmentation des prix de l'essence et de l'électricité. Une grève illimitée des travailleurs de la fonction publique est prévue ce lundi pour protester contre la décision des autorités. Reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Les deux centrales syndicales et le gouvernement nigérien se sont vus à deux reprises durant la semaine écoulée pour tenter de résoudre la crise, mais le désaccord persiste encore. La NLC, le syndicat national des travailleurs, appelle ses membres à descendre dans les rues aujourd'hui pour protester contre l'augmentation des prix du carburant et de l'électricité. Ayuba Waba est le président de la centrale syndicale des travailleurs, la NLC.
Ces deux augmentations ont aussi affecté notre pouvoir d'achat et portent un coup dur à ce que nous recevons de nos salaires minimums. Et jusqu'à présent, un tiers des 36 États ne payent pas le nouveau salaire ou le paiement connaît des difficultés dans certains États.
Le gouvernement fédéral, après l'échec des négociations, s'est rendu au tribunal du travail et a obtenu une ordonnance du tribunal interdisant aux deux syndicats d'aller en grève, ce qui rejette les syndicats. Kwadri Olaleye du Congrès des syndicats du Nigeria.
La décision du syndicat des travailleurs depuis la semaine dernière ne change pas. Cela veut dire qu'ils doivent revenir sur toutes ces augmentations. Après, vous pouvez nous proposer des solutions pour la relance de l'économie que vous avez initiée. Nous avons aussi à plusieurs occasions demandé de diversifier l'économie.
Déjà, les coûts du transport au Nigeria ont augmenté, affectant les prix des denrées alimentaires. De nombreux Nigériens affirment que l'augmentation des tarifs d'électricité et de l'essence au moment de la pandémie de COVID-19 équivaut à une double tragédie pour les populations qui ne se sont pas encore remises de l'effet du long confinement. Le gouvernement fédéral a décidé de ne plus verser de subventions pour l'essence et l'électricité, invoquant une diminution des revenus. Le ministre nigérian de l'information, Lai Mohammed.
The deregulation would bring more investments
La déréglementation va permettre plus d'investissements dans le secteur pétrolier. Le problème avec la privatisation massive intervenue dans le secteur de l'électricité, le gouvernement a jusqu'ici dépensé plus de 1,7 milliard de naira pour assurer son fonctionnement. Le gouvernement n'a pas de ressources pour continuer à le faire.
Les syndicats et leurs alliés de la société civile veulent obliger le gouvernement fédéral à inverser la récente hausse des tarifs de l'essence et de l'électricité. Le ministre du Travail et de l'Emploi, Chris Ngigué, affirme que le gouvernement est en train d'étudier les revendications des syndicats.
Oui, nous avions reçu leurs demandes et nous sommes en train de les étudier. Nous pensons que nous pourrons trouver une solution à ces réclamations et personne n'ira en grève ou descendre dans les rues pour protester.
L'économie du Nigeria a subi l'impact de la pandémie de COVID-19 et de la chute du prix des pétroles sur le marché international, la principale source de revenus du pays. Le président Muhammadu Buhari s'est dit rassurant et maintient que l'augmentation du prix de l'essence ainsi que la suppression de la subvention du carburant resteront en place. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, les autorités ont décidé de lever complètement le couvre-feu dans les 10 départements du pays. À Brazzaville et à Pointe-Noire, considérés comme le foyer de la maladie de COVID-19, le couvre-feu est désormais instauré à partir de 23h et non plus à 20h. Ces nouvelles mesures entrent en vigueur dès ce lundi soir. Des détails avec notre correspondant Arsène Séverin. À Brazzaville.
Les Brazzavillois et Pontonégrins n'ont pas attendu ce lundi pour festoyer suite à la mesure d'allègement du couvre-feu qui commence désormais à 23h dans les deux principales villes du pays.
Ce qui veut dire qu'on a plus de temps pour travailler. Donc on a tout l'après-midi pour pouvoir continuer nos activités et même instaurer un service du soir. Voilà. Nous qui sommes dans l'activité de la restauration, nous étions obligés d'arrêter nos activités à 15h30.
On sillonne sans problème. Il n'y a plus des personnes qui vont dans tous les sens, qui courent pour chercher les bus. Une bonne décision. Ils n'ont qu'à faire ça, c'est pour la population. Parce qu'on ne voit pas comment on va nous laisser longtemps dans une histoire qui n'a ni tête ni queue. Le coronavirus qu'on ne voit même pas aussi.
Ces dernières semaines, la société civile et certains activistes citoyens ont mis la pression sur le gouvernement afin de supprimer le couvre-feu qui empêche des petits entrepreneurs à mener leurs activités commerciales dans la soirée. Trésor Ndilakende, un des responsables de la société civile congolaise.
Cela produit un sentiment de satisfaction pour nous. Toutefois, nous continuerons à réclamer la suppression totale de ce couvre-feu dans les deux départements qui restent, notamment Pointe-Noire et Brazzaville. Pour nous, cette mesure de couvre-feu ne se justifie pas. Ce couvre-feu devient plus une mesure d'opportunité qu'une réelle mesure pour lutter contre la COVID-19.
Charlène Kinoani, cet activiste citoyen qui arborait tout un t-shirt dans les rues de Brazzaville pour réclamer la fin du couvre-feu, s'est dit satisfait.
Oui, effectivement, il faut le dire et véridiquement que les Congolais ont bien accueilli cette mesure. Ils sont satisfaits. Aux jeunes Congolais qui font le travail de la nuit, qui travaillent dans les sociétés qui ne fonctionnent que la nuit, de pouvoir eux aussi retrouver leurs emplois et de vivre dignement.
Instauré depuis 6 mois, de 20h à 5h du matin, le couvre-feu a été adopté comme l'une des mesures de lutte contre la COVID-19. Luan Ibiliki, président de l'Association congolaise pour l'assistance sociale, appelle la jeunesse à plus de responsabilités car le pays compte 5002 cas de COVID-19 et 89 décès.
En effet, c'est un soulagement pour les populations et les jeunes en particulier qui jusqu'ici fait preuve de responsabilité. Ce n'est nullement l'occasion de profiter car la menace COVID-19 n'est pas encore totalement écartée.
Samedi, le Parlement a entériné les nouvelles mesures et adopté pour la 9e fois consécutive l'état d'urgence sanitaire. Dans les 10 autres départements du Congo, le couvre-feu est carrément levé. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sebulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée, à l'écoute de VOA Afrique.